Bonjour, je vous étonnerai pas si je vous dis que nous sommes réunis pour présenter le livre d'Emmanuel Bayamaktam, Arcadie, qui vient de paraître chez POL. Et vous allez voir que c'est pas si facile, en fait, de présenter ce livre, parce qu'en fait, il est d'une telle richesse qu'il offre une multitude de portes d'entrée. Et donc, ça oblige à choisir. Et c'est toujours extrêmement difficile de choisir, d'abord parce que ça oblige à renoncer à certaines pistes qui sont dans le livre, et on ne peut pas parler de tout. Et puis aussi, c'est difficile parce qu'on se dit, est-ce que justement je soulève les bonnes pistes, ou est-ce que j'en oublie pas d'essentiel? On va voir, de toute façon, le débat va être ouvert. La lecture d'Arcadie est une aventure extrêmement réjouissante. On rit beaucoup, d'abord. On est bousculé. C'est à la fois une lecture très facile et c'est une écriture également impressionnante d'érudition littéraire. Et puis ce livre vient après de nombreux autres. C'est pas le premier livre d'Emmanuel. Et ces livres, petit à petit, ont constitué un univers singulier, plein de force et plein de fantaisie. Emmanuel Bayamaktam a un style qui mêle la poésie et la trivialité avec une virtuosité éblouissante, une joie de raconter que le lecteur ressent beaucoup, une extravagance, un goût du grotesque. Son œuvre en fait s'organise autour de thématiques qui reviennent obstinément de livre en livre, ça on va en parler. On peut citer bien sûr la sexualité, la question du genre, la famille, l'apprentissage, l'insoumission aux règles de la morale sociale. Donc, comme vous le voyez, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et j'espère, ça va être très difficile de tenir en une heure avec un livre comme celui-là, on va faire au mieux. Alors, juste pour vous présenter d'un mot, Emmanuel, vous êtes né à Marseille et vous y avez vécu, je crois, pas mal d'années. Peut-être c'est ça ma première question. Qu'est-ce qui vous reste de Marseille, en fait ?
Alors bon, bonjour à tous, hein, merci de vous être déplacés. Oui, je suis née à Marseille, j'y ai vécu 23 ans. Donc c'est vraiment la seule ville dont je puisse me targuer de la connaître de façon intime. J'y retourne souvent, je vais à Toulon, je vais à Nice aussi. Enfin, j'ai quand même un fort tropisme sud-est. Ce qui m'en reste, c'est peut-être l'habitude de... d'un certain métissage, d'un certain cosmopolitisme, une ville où finalement, dès le départ à l'école, on était mélangés. Hein. Et puis il me reste évidemment, vu que je vis à Villejuif, dans le Val-de-Marne, la nostalgie du soleil et de la mer. Mais vous me comprendrez, vous qui vivez ici.
Alors, vous habitez donc en banlieue parisienne, vous êtes professeur de français. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour vous une est-ce que ça fait partie, parce que évidemment vous avez un contact avec beaucoup d'adolescents, et que les adolescents, on va le voir, ont une place, souvent vos narrateurs, vos narratrices sont des adolescents. Est-ce que c'est ce contact avec les élèves, est-ce que c'est encore une source d'inspiration, notamment pour la langue de certains passages de vos livres, parce qu'on va en parler aussi, il y a certains passages dans Arcadie qui sont d'une langue extrêmement contemporaine et celle qu'on entend justement dans la bouche des adolescents.
Alors, j'aurais tendance à dire que je trouve les adolescents assez insupportables et dans la vie, enfin dans la réalité, leur présence m'est plutôt pénible, d'autant que j'en ai aussi chez moi à la maison. Et effectivement, donc voilà, l'adolescent littéraire romanesque est quand même beaucoup plus intéressant que l'adolescent, le véritable adolescent. Cela dit, Michel Abesca, vous avez raison. Le fait d'enseigner, bon, et d'avoir encore des enfants qui sont adolescents, fait que j'ai une proximité avec cette langue jeune, que j'ai accès à des expressions qui d'ailleurs vont se périmer très vite. Hein. Et du coup, dans les dialogues, quand je fais dialoguer des gens très jeunes dans mes récits, autant je revendique une langue parfois acrobatique, académique, lyrique et pas très vraisemblable, autant dans les dialogues, je veux une justesse. Et donc, effectivement, la façon dont mes élèves parlent devant moi, qui est vraiment très étrange, peut m'inspirer.
Oui, on en donnera des exemples tout à l'heure. Alors, votre premier roman, c'était en 1996. C'était Raie de cœur. Alors déjà, chez P.O.L., de toute façon, tous vos livres sont chez P.O.L.
Oui.
Vous avez écrit, je crois que c'est votre 11e roman, Arcadie, sous le nom d'Emmanuel Bayamaktam. En fait, la notoriété est venue avec les derniers livres, une notoriété maintenant très large. C'était si tout n'a pas péri avec Mon innocence en 2013 et Je viens en 2015, qui sont tous les deux d'ailleurs disponibles aujourd'hui en folio. Mais vous écrivez aussi sous le nom de Rebecca Ligieri.
Oui.
Alors, voilà, vous avez trouvé un hétéronome. Donc, il y a des livres Bayamaktam et il y a des livres Ligieri. Alors, d'abord, d'où vient ce pseudo? Vous l'avez choisi comment, Rebecca Ligieri?
Vous doutez que c'était très mûrement réfléchi. Alors, j'avais besoin d'un pseudo parce que je voulais m'aventurer sur d'autres terrains romanesques que mes romans habituels. Je voulais finalement écrire quelque chose qui, pour aller très vite, relèverait du roman noir. Et je voulais vraiment signifier une différence entre ce que j'écris sous mon nom et puis cette aventure littéraire dans laquelle je me lançais sans trop vraiment savoir, d'ailleurs, si j'irais jusqu'au bout et ce que ça donnerait. Et donc, quand il a été question de choisir un pseudonyme, bon, j'en avais proposé trois à POL, j'ai oublié les deux autres, mais Rebecca, c'est parce que c'est aussi le titre d'un roman de Daphné du Maurier, qui est un roman important pour moi. Je trouve que c'est vraiment une réussite romanesque incroyable. Et puis Ligieri, bon, ça c'est vraiment, ça n'amuse que moi, je pense. C'est un clin d'œil à Dante, mais personne n'y pense à part moi, mais c'est pas grave, je suis contente. Donc voilà. Et puis aussi peut-être clin d'œil à mes origines italiennes.
Oui, ça on l'entend tout de suite. Alors il y a eu une nouvelle, puis il y a deux romans sous ce nom en 2013, Husbands, et en 2017, Les garçons de l'été. Mmh. Donc en fait, est-ce qu'éventuellement vous pouvez imaginer, parce qu'évidemment ces livres sous les deux noms se font écho, est-ce que vous pouvez imaginer peut-être de je pense à Volodine par exemple, qui, oui, s'est créé toute une série d'hétéronymes, oui, masculins ou féminins, puisqu'il est aussi Manuela Drejer par exemple. Est-ce qu'éventuellement ça c'est quelque chose qui vous intéresse?
Oui, je pensais plutôt à Pessoa qu'à Volodine, mais après je me suis rappelé que Volodine aussi multipliait les hétéronymes. Alors j'aimerais effectivement avoir un troisième, un autre hétéronyme pour écrire un roman gothique que j'ai commencé, donc je ne sais pas encore si j'irai jusqu'au bout ou pas, mais il faut bien comprendre que ni les éditeurs ni les libraires n'aiment beaucoup ça. Enfin, ça brouille vraiment les cartes et ça n'a pas été simple de faire accepter aux éditions POL que je publie comme ça sous deux noms. Donc oui, idéalement, je rêve de les multiplier, les avatars et les pseudonymes, mais je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée.
Et oui, parce qu'à chaque fois, il faut installer un nouveau nom, le faire connaître. Alors, j'en viens à Arcadie. Alors là, d'un mot, pour que tout le monde puisse suivre, évidemment, je vais être extrêmement réducteur, puisque essayer de dire en quelques mots le propos d'un livre, c'est mission impossible, en particulier pour celui-là. Mais disons que au centre du livre, il y a une grande propriété, très belle propriété, avec beaucoup de terrain. C'est à la frontière franco-italienne. Auparavant, c'était un collège religieux tenu par des bonnes sœurs pour éduquer les jeunes filles pieuses. Et aujourd'hui, cette grande bâtisse abrite une communauté qui s'est mise à l'abri de la civilisation et des nouvelles technologies, donc elle constitue une zone blanche. Elle accueille, là je cite, les laissés pour compte de la grande parade. Et le texte cite les obèses, les dépigmentés, les bipolaires, les électrosensibles, les grands dépressifs, les cancéreux, les polytoxicomanes, les démences séniles. En fait, ce sont des frics, d'une certaine manière, qui sont dans cette communauté. Et cette communauté, elle est conduite par une sorte de gourou. On verra, peut-être vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord sur ce terme, mais... Il prône l'antispécisme, bien sûr le bio et surtout l'amour libre. Alors la maison s'appelle Liberty House et ils disent à Liberty House, tout le monde couche avec tout le monde sans en faire un flamby. Alors au centre du livre, il y a également, et c'est la narratrice Farah, qui est donc au départ, elle est toute jeune, elle a 6 ans. Quand elle arrive avec ses parents, elle va y grandir. Quand elle parle, je ne sais pas, d'ailleurs, on en parlera. Je ne sais pas quel âge elle a. En tous les cas, ça se passe beaucoup autour de ses 15 ans.
Oui, c'est, les trois quarts du récit ont lieu l'été de ses 15 ans. Hein. J'aime bien, dans mes romans, saisir une saison cruelle, en général. Et c'est vrai que là, elle arrive à 6 ans dans la communauté. Elle en a 20 à la fin du récit, mais la plupart du temps, elle en a 15.
Alors... En fait, on va assister à cette jeune fille qui grandit et qui force, dont le corps, forcément, le corps qui est très important dans le roman d'Emmanuel, on va en parler aussi. Bien sûr, son corps change, puisque entre 6 ans et 15 ans. Donc, pendant toute la première, tout le début de sa croissance, le corps se développe normalement, entre guillemets, jusqu'au moment où il se virilise. Jusqu'au moment où, en fait, le développement s'arrête dans une espèce d'entre-deux entre le féminin et le masculin. Et donc, cette jeune femme, cette jeune fille est la narratrice du roman, et on va suivre son apprentissage, parce que c'est aussi un roman d'apprentissage dans cette communauté. Apprentissage qui, bien sûr, signifie aussi désillusion. Alors, peut-être la première question, parce que j'ai vu que vous avez expliqué ça plusieurs fois, que souvent vos livres ont un point de départ qui peut être d'ailleurs comme une tête d'épingle infime. Est-ce que là ça a été le cas? Est-ce qu'il y a eu un point de départ aussi ténu soit-il, et quel serait-il?
Oui, à l'origine de mes livres, il y a toujours un texte allographe, quelque chose qui n'est pas de moi, hein, une citation, une phrase, une formule, un hémistiche. Ça peut être, c'est souvent du Henri Michaud. J'ai écrit tout un livre en fait qui pour moi était une façon de développer une phrase de Michaud qui est « À quoi bon la tête quand on est débordé ?» Ben moi ça me suffit. Avec ça je peux faire un livre. Et pour celui-ci, pour Arcadie, c'était une phrase de Colette dont j'ai oublié en fin de compte où est-ce que je l'ai trouvée. Et c'était « Tout ce qu'on dit d'une forêt est vrai ou le devient ?» Et finalement, ça faisait écho à un désir plus ancien qui était d'écrire un roman beaucoup plus bucolique, avec une présence du vivant, de la faune, de la flore plus insistante que dans mes autres livres. Et la phrase de Colette, elle a disparu du récit. On la retrouve à la fin où elle devient « Tout ce qu'on dit de la vie est vrai ou le devient ?» Et ça marche assez bien. Hein. Faites le test. Et donc, voilà. Donc, je pars avec des choses effectivement ténues, mais qui ensuite convergent, rejoignent des obsessions, des désirs plus anciens. Voilà, on écrit un livre finalement pour savoir pourquoi on écrit ce livre. Et chemin faisant, on trouve des réponses.
Alors, il y a également les prénoms qui sont souvent, ça aussi, vous en avez parlé déjà, mais hélas, je pense que c'est vrai pour Arcadie aussi. Les prénoms qui... On commence aussi par les prénoms. C'est-à-dire que chez vous, dans vos livres, les prénoms sont très importants. Ils sont minutieusement choisis. Et puis, ils reviennent, d'ailleurs. Par exemple, Arcadie, qui est le nom du gourou. Arcadie avec un Y, là, qui est le nom du gourou dans le roman. Il était déjà dans Une fille de feu. Il était dans La princesse 2, tout comme Daniel, d'ailleurs. Et ils étaient déjà liés. Et là, ils sont à nouveau liés. Ou bien Nelly, aussi, qui est une vieille femme. Elle avait 82 ans dans Pauvre mort. Là, c'est aussi une très vieille. Vous l'avez un peu rajeunie.
Ouais, elle a 75 ans, mais c'est la même.
Elle a de la chance. Alors, pourquoi les prénoms sont importants et comment les choisissez-vous?
Alors, il y a deux choses distinctes. Il y a des personnages qui reviennent dans mes romans. C'est-à-dire que Arcadie, ce n'est pas seulement son prénom que je réutilise, c'est le même personnage. Nelly, c'est la même. Bon, quelques années près, mais peu importe. Le choix du prénom, c'est vraiment un acte créatif lourd de conséquences. Et moi, j'ai toujours été... Enfin, toujours. Depuis longtemps, je me dis que finalement, le prénom, c'est quelque chose de très important pour nous, qui nous suivra toute notre vie. Et pourtant, on ne l'a pas choisi. Hein. Il est choisi pour nous, il nous suit, on le subit ou pas. Et donc, j'ai parfois dans mes récits des personnages qui se rebaptisent, en fait. C'est ce qui arrive dans Arcadie, hein, où finalement, en entrant dans la communauté, les personnages sont rebaptisés. Et c'est vrai que j'aime bien choisir des prénoms un peu étranges. Et puis le prénom d'Arcadie Y, qui est un prénom qui existe, hein, qui se donne pas mal en Russie, tout, tout d'un coup, ça a été l'illumination quand j'ai réalisé que, ben oui, Arcadie IE, c'est aussi le jardin du paradis, une terre idyllique, protégée du monde extérieur. Et là, j'avais presque tout le livre à partir du moment où j'ai fait ce rapprochement.
Alors, comme je le disais, ce livre est d'une grande richesse. Il y a des tas de portes d'entrée, en fait. On va commencer, c'est un peu arbitraire, mais enfin, bon, j'ai eu envie de commencer comme ça, par la narratrice. Et par son parcours. Alors, c'est vrai que chez vous, c'est souvent, pas toujours, hein, mais c'est souvent une adolescente, la narratrice, avec une langue bien pendue, un côté un peu redresseuse de tort. Je pense à, il y a eu Sharon, il y a eu Kimberly dans Si tout n'a pas péri avec mon innocence. Et là, c'est Farah. Alors, j'aimerais bien que vous nous présentiez en quelques mots Farah et que vous nous disiez ce qu'elle a de commun ou de différent avec vos précédentes narratrices.
Alors j'ai quand même des narrateurs et des narratrices hein, qui sont pas des adolescents. Dans Pauvre Mort, la narratrice, elle est nonagénaire. Dans Tout ce qui brille, c'est un homme de une quarantaine d'années. Mais c'est vrai que j'ai des personnages qui sont souvent des ados. Et j'ai souvent des personnages qui sont effectivement des justiciers, des missionnaires, des redresseurs de tort. Ce qui me permet finalement de leur faire assumer des discours un peu délirants, un peu pathologiques, qui moi m'intéressent hein, sur le plan littéraire. Alors Farah, qui est l'héroïne d'Arcadie, elle est neuve dans mon personnel romanesque, hein, c'est pas un personnage récurrent, c'est la première fois que je la fais arriver dans un texte. C'est vrai qu'elle ressemble à Kimberly et à Sharon par sa jeunesse et par son forme d'idéalisme et de droiture et de cynisme et de lucidité. Et en même temps, elle a une histoire différente, parce qu'elle n'est pas élevée par ses parents, elle est élevée dans une communauté. Elle a un corps très particulier, parce que bon, déjà, elle n'est pas jolie du tout, elle est très disgraciée. Et puis effectivement, elle va... c'était une petite fille, et puis elle va devenir quelque chose qui est ni fille ni garçon. Donc elle est... en cela, elle rejoint d'autres personnages indéterminés sexuellement de mes récits. Hein, mais il m'a semblé quand même qu'elle avait un ton, un propos et une histoire différente de Sharon et Kimberly.
Elle a des parents et elle a des parents défaillants, en fait, d'une certaine manière. Sa mère, c'est sa mère qui est terriblement électrosensible et qui a d'ailleurs conduit à ce qu'il déménage à cet endroit-là, dans cette zone blanche, parce qu'elle ne pouvait plus rien supporter de la vie contemporaine et des nouvelles technologies, etc. Cette mère électrosensible s'est convertie à l'islam et elle a une pratique de l'islam très, très rigoriste. C'est ça, non ?
Pas du tout.
Ah zut, alors, il faut que j'ai retenu ça,
parce
moi.
Parce que vous avez lu trop vite.
Ah ouais.
Non, j'explique. Donc, en fait, non, elle n'est pas du tout convertie. De toute façon, elle est à peu près déficiente mentale. Donc, je pense qu'elle n'a pas de religion à proprement parler. Non, c'est qu'en fait, comme elle est électrosensible, elle porte un voile d'apicultrice. Et donc, dans la rue, les gens croient qu'elle est voilée.
Et c'est les gens qui pensent qu'elle est... Ah d'accord.
Non,
eh bien, vous avez
pas.
Raison.
Je me rappelle de la phrase qui vous bien, a moi, induit le... en erreur et vous êtes tout à fait excusable.
Merci beaucoup. Et puis le père, il est à la limite de la normalité intellectuelle. Il est en plus hyper émotif, dyslexique et tout. Donc ça, qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de donner à Farah des parents comme ça, c'est-à-dire des parents immatures, défaillants?
Alors les parents sont toujours défaillants dans mes récits parce que ça m'intéresse en fait de pointer la faillite parentale généralisée. Et de montrer à quel point, finalement, nous, adultes, et je ne m'accepte pas du tout hein, de ce discours critique, nous sommes parfois... nous constituons de bien piètres modèles pour les enfants qui nous sont confiés, nos enfants, nos élèves, etc. Et je pense que des parents très immatures, ça ne donne pas envie de grandir. Ou alors, ça donne envie de grandir très vite. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui dysfonctionne. À ce niveau. Donc j'ai souvent des parents défaillants. Là, ils le sont particulièrement, mais là où finalement ils sont pas si bêtes, c'est que comme ils arrivent dans une communauté, ils vont se décharger de leurs tâches éducatives sur les autres adultes, et en particulier sur Arcadie, et finalement c'est mieux. C'est-à-dire que la responsabilité parentale est diluée, On sait que ça marche, on sait qu'effectivement la famille nucléaire c'est toxique, c'est dysfonctionnel, et que en définitive, quand c'est la communauté, la famille élargie qui élève l'enfant, ben ça se passe mieux. Bon, ça se passe pas forcément bien, mais ça se passe mieux. Donc parents défaillants, particulièrement dans ce récit, mais ils le sont dans la plupart de tous mes récits.
Et effectivement, ça va être plutôt une bonne chose en fait. Pour Farah, alors encore un mot sur Farah, et ça c'est ce qui aussi donne beaucoup de sel au roman, qui rend la lecture tellement tellement piquante, c'est qu'elle a une, alors c'est pas la première dans vos héroïnes, mais elle a une férocité de regard. C'est pas une méchante, mais elle est aiguë, elle est tranchante. Alors évidemment c'est une adolescente, elle voit tout, et elle a une férocité dans sa parole aussi.
Elle a la lucidité de sa jeunesse, sans doute. Et puis, finalement, depuis des années, moi, je prétends écrire une sorte de comédie humaine. Hein. Alors, sans doute sans le talent de Balzac, mais avec des objectifs un peu similaires. Hein. Je vise quelque chose de satirique. Et donc, avoir comme ça des personnages qui, parce qu'ils sont un peu à la marge, parce que Farah, avec son physique particulier, le fait qu'elle vive dans une communauté déconnectée, parce qu'elle vit dans une zone blanche, ces personnages, depuis leur marge, finalement, vont avoir une lucidité pour juger de ce que finalement ce avec quoi nous n'avons même plus de distance critique. Et donc, elle est très lucide, elle est très critique, donc ça me permet, moi, finalement, d'en faire un peu la porte-parole de certaines de mes exaspérations, de mes agacements ou incompréhensions. Cela dit, il me semble qu'elle a aussi un regard bienveillant et sur sa communauté et sur ce monde extérieur dont elle perçoit pourtant les failles.
Oui, d'ailleurs, elle a un regard, ça, c'est très intéressant, elle a un regard magnifiquement ouvert, je trouve. Enfin, moi, il m'a semblé ça. Elle a une ouverture d'esprit, m'a-t-il semblé.
Oui, alors ça tient à plusieurs choses. Alors, d'une part, elle vit... Elle reçoit une éducation assez idéale, hein, puisqu'elle vit dans une zone blanche, dans un grand domaine boisé. Elle est scolarisée à l'extérieur, mais en même temps, dès qu'elle rentre, elle grimpe aux arbres, elle se roule dans l'herbe, il y a des chats, des vaches, des poules. Donc elle reçoit une éducation un peu rousseauiste, qui, moi, me semble idéale, d'autant qu'elle bénéficie d'une très grande bibliothèque dans laquelle elle puise... on la laisse lire ce qu'elle veut. Et elle a du temps, forcément, puisqu'elle n'a pas son petit portable en permanence avec elle. Et j'ai oublié votre question, mais j'étais un peu en train d'y répondre. Mais...
Oui, vous y répondiez. Je disais que j'avais trouvé qu'elle avait... c'est vrai qu'elle a un regard aigu, parfois féroce, mais une grande ouverture d'esprit.
Oui, alors l'ouverture d'esprit vient de cette éducation quand même un peu marginale. De la fréquentation des livres, hein, qui, moi, me semble quelque chose d'essentiel. Et si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous y croyez. Et puis, il y a l'influence d'Arcadie, qui est son directeur de conscience, qui s'occupe de l'élever à tous les sens du terme, et qui lui donne, je pense, cette tolérance.
Alors Farah, elle est donc d'un genre indéterminé, on en a parlé. D'abord, je voudrais parler du corps, parce que, bon, ça c'est évident, le corps est central dans votre œuvre, il l'est aussi dans Arcadie. Vous avez dit qu'elle est plutôt disgracieuse, enfin, en tous les cas, par rapport au canon classique de la beauté. Ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'en fait, cette disgrâce n'est pas un problème. C'est-à-dire que dans le livre, les corps, quels qu'ils sont, suscitent le désir. Loin des canons de beauté ordinaires, il y a quelque chose de magnifique et presque idéal là-dedans.
Oui, ça c'est un peu mon obsession. Ce que je trouve problématique, c'est que précisément les disgrâces et les défauts soient problématiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intolérance en matière de défauts physiques. C'est-à-dire que le moindre bouton, la moindre ride, la moindre vergeture, le moindre surpoids, finalement fait qu'on est éjecté du marché des amants. Et je trouve ça insupportable. Et de livre en livre, effectivement, je reprends cette idée que le désir devrait pouvoir souffler où il veut et donc finalement nous diriger vers des gens de 90 ans, d'autres qui seront peut-être, défigurés par une maladie de peau ou j'en sais rien. Enfin, dans Arcadie, il y a suffisamment d'exemples de ces disgrâces physiques. Et là aussi, j'ai perdu le fil, mais vous allez m'aider. Oui, alors le corps, pourquoi effectivement... moi, je suis toujours surprise qu'on me dise « Ah, vous, vous écrivez sur le corps vous intéresse. » Enfin, qui ça n'intéresse pas? C'est vraiment... Il y a des mots de... Il y a chez Michel Foucault des choses très justes à ce sujet. Il dit en substance, hein, je ne le cite pas exactement, que le corps, c'est l'assignation à résidence, c'est la prison à vie. Et que, voilà, on va subir son corps, on va parler depuis son corps, vivre, aimer depuis ce corps. Et moi, il m'a toujours semblé qu'autant l'accepter. Et l'accepter dans le processus inévitable de sénescence et de décrépitude que je prends plaisir à décrire là aussi dans pas mal de mes livres.
Alors, de même que la question du genre, donc Farah est androgyne. D'ailleurs, elle dit pas qu'elle est androgyne. C'est moi qui le dis parce que bon, ben voilà, c'est pour mettre un mot. Mais Farah, elle est comme elle est. En fait, elle est entre la fille et le garçon. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'en fait, c'est pas un sujet. Parce que ça pourrait être vraiment le sujet. Alors, c'est vrai que ça revient souvent dans votre livre, mais c'est pas le sujet. Le personnage, il est comme ça. Vous l'imposez, mais vous en faites pas un problème. Et c'est ça qui est intéressant.
Alors, je dois d'abord dire que si c'est un sujet, c'est mon sujet depuis toujours. Puisque finalement, dès le premier livre que j'ai publié en 96 aux éditions POL, le héros était déjà un garçon qui s'appelait Daniel et qui ne se sentait bien que quand il s'habillait en fille et qui finalement se sentait fille. Et puis, de livre en livre, hein, j'ai toujours, ou presque toujours, des personnages qui sont... à un degré ou à un autre, intersexué. Donc je n'ai pas sauté de façon un peu opportuniste sur un sujet à la mode. Mais ce que je constate, c'est que y a quand même quelque chose de l'ordre de la libération de la parole qui s'est fait récemment. Parce que quand, en 1996, je publierai De cœur, en France, on parle très peu de genre. Bon, on a 20 ans de retard sur les États-Unis, et ça n'est pas un sujet du tout. Et puis là, je constate que finalement, des personnages... intersexués ou transgenres arrivent de plus en plus dans la littérature. On voit au chapitre, s'exprime. Moi, je commence à avoir des élèves ou des étudiants qui viennent me dire en début d'année qu'ils sont transgenres et qu'il ne faut pas que je les appelle Zoé, mais qu'il faut que je les appelle Charlie, ou inversement. Ça ne m'arrivait pas il y a 20 ans. Donc, il y a quelque chose qui me semble s'être libéré. Et puis, quand j'ai commencé pour ce livre-là à y réfléchir davantage, à travailler davantage sur l'intersexuation, j'ai trouvé ce chiffre un peu étonnant de 15%. Il y aurait 15% de la population mondiale qui présenterait à un degré ou à un autre quelque chose qui relève de l'intersexuation. Alors ça peut... Attention, hein, ça peut être une pilosité excessive chez une fille ou un corps un peu gynoïde chez un garçon. Hein. Je ne parle pas des androgynes ou des hermaphrodites. Alors c'est peut-être un chiffre exagéré, mais c'est un chiffre qui m'intéresse, d'autant qu'il fait écho à ce que je crois depuis toujours, à savoir que, bien sûr, nous sommes sexuellement indéterminés, en dépit de la base génitale et hormonale qui nous sépare en deux de façon très binaire.
Alors, pour aller plus loin, cette indécision de genre, on pourrait imaginer qu'elle va être un obstacle terrible. D'ailleurs, c'est envisagé à un moment dans le livre, et c'est d'ailleurs dit de manière absolument frontale, en termes assez crus, c'est-à-dire que les organes sexuels de Farah sont tels qu'on pourrait imaginer que ça ne va pas faciliter justement sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, etc. Or, en fait, au fur et à mesure du livre, on constate que cette indécision est presque, va être l'instrument de sa liberté, en fait. D'une certaine manière, elle va pouvoir être ce qu'elle est, vraiment.
Oui, alors c'est plutôt une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que non seulement son intersexuation, le fait qu'elle soit plus ni garçon ni fille à la fin du récit, va être un outil d'émancipation et de libération, mais c'est parce qu'elle a été élevée très librement, enfin c'est une des interprétations qu'elle donne à ce qui lui arrive, elle se dit qu'en fin de compte, cette espèce de mutation qu'elle subit à la puberté, alors ça peut avoir une cause environnementale, mais c'est une hypothèse qu'elle évacue assez vite. C'est peut-être quelque chose d'un peu fantastique, d'un peu magique, mystérieux, mais ça aussi, elle ne s'attarde pas sur cette explication. Non, elle pense que finalement, si son corps ne choisit pas, c'est parce qu'elle a été élevée par une communauté qui l'a laissée tranquille là-dessus. Quoi. Finalement, on ne s'est pas tellement occupé d'elle, on l'a laissée grandir librement. Et comme on l'a laissée grandir librement, ben son corps a choisi de ne pas choisir. Donc c'est de la liberté qui engendre de la liberté, voilà, dans une espèce de cercle vertueux.
Alors elle va découvrir le sexe avec Arkady, donc le vous avez dit tout à l'heure son directeur de conscience, son gourou, enfin on peut imaginer, dès qu'elle a 15 ans. En fait, elle aurait bien aimé avant, elle est demandeuse en fait, hein, dès 13 ans, et c'est lui qui lui dit non, t'as que 13 ans, c'est un peu jeune, etc. Bon, et mais à partir de 15 ans, elle va vraiment, malgré la différence d'âge, malgré sa singularité physique, elle va donc découvrir le sexe avec Arkady, et ça va être pour elle une expérience lumineuse en fait. Il y a des très belles scènes d'ailleurs d'amour entre les deux. Alors évidemment là on est par rapport à la morale sociale, on est c'est assez évidemment c'est ça provoque quand même.
Pourtant, enfin je suis pas pour le coup, je me suis quand même un peu auto-censurée parce que au début j'imaginais qu'elle aurait ses premiers rapports sexuels avec Arkady à 13 ans parce que j'avais en tête en fait Lolita de Nabokov ou si vous vous rappelez bien. C'est Lolita qui séduit le narrateur et elle a 13 ans et ça n'est même pas son premier amant. Mais ensuite, comme je voulais quand même que les lecteurs portent jusqu'à la fin sur Arkady, sur la communauté, un regard bienveillant et que je voulais montrer qu'Arkady n'était pas un gourou, que c'est pas quelqu'un qui abuse sexuellement des enfants de la communauté, il n'est pas pédophile du tout. Voilà, je me suis dit, allez, on va dire qu'elle a 15 ans, comme ça, on me laissera tranquille avec ça. Et puis, en définitive, ça avait aussi une cohérence qu'elle ait 15 ans. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment pas de faire d'Arkady quelqu'un qui ne respecte pas la liberté des individus. On n'est pas dans une secte, hein, et ce n'est pas un gourou. Même s'il y a une ambivalence et un moment où finalement le jugement du lecteur peut un peu flotter ou être déstabilisé à ce sujet.
Oui, c'est ça. Surtout que je crois quand même que le mot gourou, il est dans le livre.
Il est dans le livre, mais en général, c'est d'autres que Farah qui l'emploient. C'est justement, c'est vraiment, elle a une petite copine qui s'appelle Maureen, qui est un peu bornée. Et bien sûr, Maureen lui dit, mais finalement, tu t'es fait laver le cerveau par ton gourou. Puis ensuite, bon, il va se passer quelque chose dans la communauté, la presse va se déchaîner, et évidemment qu'Arkady va être considéré comme un gourou, c'est beaucoup plus facile. Mais j'espère qu'une fois le livre fermé, on n'a pas ce jugement-là sur Arkady. Ou alors j'ai vraiment
non, du tout.
Raté mon coup, ouais. Merci.
Du tout. Alors justement, venons-en à la communauté Arkady. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Arkady, évidemment, ça renvoie à l'Antiquité, au paradis perdu. On peut peut-être penser aussi à la maison du jouir de Paul Gauguin. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots un petit peu cette communauté, justement ?
Bien sûr. Je m'intéresse depuis longtemps aux communautés, aux confréries millénaristes, du libre-esprit, aux ZAD aussi, hein, les zones à défendre, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu, enfin de plus en plus. Et là, quand j'ai voulu fonder ma propre communauté, finalement, j'ai croisé plusieurs informations. J'ai beaucoup pensé à Hugo et à Hauteville House, hein, à Guernesey, au projet qu'Hugo avait de familistère, de phalanstère. Alors j'ai pensé à Fourier aussi. Et puis il y a aussi une communauté new-yorkaise, une école allemande. Enfin, j'ai croisé comme ça Tamera au Portugal aussi, qui est une communauté qui est fondée sur l'amour libre, une forme d'échangisme en définitive. Et j'ai trouvé très souvent, y compris dans des confréries médiévales, hein, cette idée que si on ne jugule pas le désir, si on essaie d'être moins hypocrite par rapport à sa vie sexuelle et de mener une vie sexuelle très libre, qui effectivement proscrit des relations exclusives, par exemple, et qui proscrit aussi le mensonge, voilà, si on commence par libérer sa vie sexuelle, très probablement, on va ensuite pouvoir répandre la paix dans le monde. Enfin, je vous le répercute tel que je l'ai lu. C'est-à-dire que les gens de Tamera, ils pensent très sérieusement qu'ils peuvent essaimer à partir de leur communauté et que quand ils auront réglé finalement leurs problèmes amoureux intimes, quand ils auront réussi à avoir une vie sexuelle libre et épanouie, ils seront à même ensuite de répandre l'harmonie et la paix dans le monde. Donc, dans mon roman, Arkady avec Y et son compagnon fondent cette communauté sur ce dogme, sur cette idée d'amour libre. Et donc effectivement, ils couchent tous les uns avec les autres à condition qu'il y ait une symétrie des désirs. Et ça exclut évidemment les enfants, parce que les enfants ne sont pas dans une symétrie de désirs avec les adultes. Et là-dessus, Arkady est, me semble-t-il, assez inattaquable. Donc, ils sont libertins, pour le dire vite, ils sont naturistes, ils sont végétariens, antispécistes. Voilà, il y a toutes sortes de fondamentaux sur lesquels ils construisent leur communauté. Et puis, j'avais quand même en tête le paradis. Et dès qu'on commence à réfléchir, à se renseigner sur l'Arcadie, dans la mythologie antique, ou sur le jardin d'Éden, on s'aperçoit que le paradis, dans l'imaginaire, c'est le jardin, c'est le verger, mais c'est surtout le jardin clos. Donc, dès le départ, il y a cette idée d'une clôture, et ce qui, finalement, va être problématique dans cette histoire, c'est que, certes, ils ont instauré le paradis terrestre, mais c'est fermé aux autres.
Voilà, on va y venir. Il y a un personnage, alors, par rapport à cette question, qui m'a c'est un très beau personnage, qui m'a beaucoup séduit, mais en même temps, il me reste un petit peu des questions. C'est Fiorentina. Fiorentina, c'est une femme extraordinaire parce que c'est une magnifique cuisinière et puis rien que de sa façon de parler de la nourriture, voilà, on a envie de se mettre à table. Mais alors elle, par contre, elle participe pas du tout. Elle, par exemple, elle a des relations sexuelles avec personne.
C'est un droit qu'elle exerce. Alors Fiorentina existe. C'est une cousine très très éloignée de mon père et elle règne sur une espèce d'auberge dans le Piémont, où elle fait la cuisine divine dont je parle dans ce roman. J'ai pris beaucoup de plaisir à décrire des plats, à inventer des plats. Alors, le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout végétarienne et qu'on lui impose de renoncer à sa daube au sanglier. Et c'est très douloureux pour elle. Donc, effectivement, mais c'est là où, finalement, la communauté fonctionne. Elle est dans la communauté, tout en ayant de relations sexuelles avec personne et tout en ne comprenant même pas de quoi il retourne.
Alors, je voulais en venir à une autre question par rapport à cette communauté. C'est vrai qu'on a une vision au fur et à mesure, même si au départ, ça peut paraître provocateur, voire choquant. Petit à petit, on se dit que c'est finalement une expérience assez formidable, assez passionnante, réjouissante. Mais en même temps, il m'a semblé, alors peut-être vous allez me contredire, mais qu'il y avait... de votre part, une forme d'ambiguïté, parce que à la fois c'est présenté comme une utopie positive, mais c'est un peu moqué en filigrane. Alors je voulais lire juste un petit passage, si vous permettez, page 25, parce que ça illustre ce que j'essaye de dire. C'est un passage où on parle des peurs, en fait, des résidents d'Arcadie. Et là, il y a une liste. Alors, on va parler de la liste, d'ailleurs, parce que vous utilisez ce procédé plusieurs fois, et ça provoque le rire, en fait.
Les listes ?
Les listes. Et alors là, vous dites, nous avions peur des nouvelles technologies, du réchauffement climatique, de l'électrosmog, des parabènes, des sulfates, du contrôle numérique, de la salade en sachet, de la concentration de mercure dans les océans, du gluten, des sels d'aluminium, de la pollution des nappes phréatiques, du glyphosate, de la déforestation, des produits laitiers, de la grippe aviaire, du diesel, des pesticides, du sucre raffiné, des perturbateurs endocriniens, des arbovirus, des compteurs Linky, et j'en passe. Là, on sent quand même une petite pointe de moquerie, quand même. Ah,
détrompez-vous. Moi, j'ai peur de tout ça. Et j'en ai d'autant plus peur que je n'y comprends rien. Je ne sais pas ce que c'est exactement, les perturbateurs endocriniens, les particules fines. Et j'ai écrit ce livre. Je pense que c'est un roman millénariste. C'est un livre écrit avec la peur de la fin du monde. Et là, de nouveau, j'avais une citation, mais finalement, j'en ai un peu pour toutes les situations. Ça doit être pénible. Il y a une phrase de Claudel que j'aime beaucoup. Il dit « La fin du monde est toujours imminente ». Et effectivement... Il semblerait que toutes les sociétés aient vécu avec cette angoisse de la fin du monde. Alors évidemment, notre angoisse de la fin du monde aujourd'hui, elle prend des formes différentes de celles que pouvaient avoir les Grecs de l'Antiquité ou les Français du Moyen-Âge. Mais en tout cas, il y a cette angoisse et elle est peut-être d'autant plus forte pour nous que finalement, pour la première fois de son histoire, l'espèce humaine a les moyens, elle, de faire sauter la planète. Ce qui n'était pas le cas du temps de Virgile. Donc, tout ce que j'ai énuméré là dans cette liste qui peut sembler effectivement comique, non, ce sont des angoisses que j'ai, et que j'ai d'autant plus qu'il s'agit d'ennemis invisibles, donc comment lutter. Et j'ai vraiment, tout en fondant ma communauté dans ce jardin, avec ces êtres humains qui vivent en bonne intelligence, avec des animaux, avec des fleurs, avec des fruits, des arbres, j'avais vraiment envie, moi-même, de, pendant au moins le temps de l'écriture, de me réfugier dans ce monde préservé. Et j'ai écrit ce livre avec le fantasme d'un retour dans des temps primordiaux, plus simples, plus heureux. Et donc, cette liste est extrêmement sérieuse.
Très bien. Alors, les limites de cette utopie, on y a fait allusion, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est qu'effectivement, voilà, c'est une sorte de paradis, d'utopie fermée, vous l'avez dit. C'est clos. Et il va y avoir un problème, c'est quand... parce que là, comme on est à la frontière entre la France et l'Italie, il y a plein de migrants qui passe, et il y en a un qui va venir d'abord, et puis il peut y en avoir d'autres derrière, et en fait la communauté, il y a une très belle scène là, d'ailleurs, assez, où d'ailleurs Farah essaye de plaider l'inverse, mais ils sont contre elle, ils pensent qu'il ne faut surtout pas laisser rentrer ces migrants, il faut se barricader, il faut faire attention. En fait, c'est pas des méchants, c'est pas des méchants, mais voilà, c'est leur limite. Alors évidemment, on pense à ce qui se passe aujourd'hui en France et plus généralement en Europe.
Oui, alors effectivement, arrive un réfugié érythréen dont on peut penser qu'il va être suivi de beaucoup d'autres, parce que cette communauté, elle est installée, on comprend que c'est sur les hauteurs de Menton, près de la vallée de la Bévéra ou de la Roya, et donc évidemment qu'ils vont être confrontés aux réfugiés. Sauf que ces gens qui sont très gentils, qui sont très tolérants et qui prônent l'amour, mais qui sont sincères, ils veulent rester entre eux. Et ils ont le sentiment que s'ils ouvrent les portes, ils vont être envahis, ils vont être aliénés. Et donc, le migrant, non, c'est pas possible. Ils vont refermer la communauté et ne pas accueillir ce réfugié. Cela dit, là aussi, hein, j'étais pas du tout dans l'objectif d'écrire un roman à sujet, hein, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce personnage d'Érythréen, qui s'appelle Angosom, c'est aussi un personnage qui a un lignage littéraire, c'est-à-dire qu'il a cet ancrage très contemporain, lié à l'histoire récente, hein, de la France et de l'Érythrée. Mais c'est aussi Vendredi, le sauvage, qui fait irruption. C'est aussi, alors, bon, ça peut sembler plus lointain comme enfin, le rapprochement, c'est aussi Madame Arnoux, de l'éducation sentimentale, parce que quand Farah le voit pour la première fois, ben, c'est comme une apparition, elle est éblouie. C'est même l'Ophélia du poème de Rimbaud, parce qu'à un moment, il flotte entre les lys. Et donc, c'est un personnage archi-littéraire, mais en même temps, malgré ce lignage, évidemment qu'il dit des choses de notre époque, et évidemment que Liberty House fonctionne comme une sorte de synecdoque. Hein, c'est la partie qui dit le tout, et dans une relation un peu spéculaire à la France et à l'Europe, puisqu'ils vont refermer les murs, le portail de la citadelle.
C'est ça. Alors venons-en à l'écriture. Évidemment, on a déjà, vous avez fait un certain nombre de citations et tout, on a déjà commencé. Comme chaque fois, parce que c'est dans vos livres comme ça, toujours, Arcadie est nourrie de lecture, en fait. Aussi bien, d'ailleurs, des classiques que des moins classiques. D'ailleurs, à la fin du livre, vous citez une cinquantaine de noms d'auteurs, d'écrivains, mais il y a même James Ellroy, auxquels vous avez emprunté des phrases ou des titres. Alors, on peut s'amuser d'ailleurs en lisant le livre à chercher. Moi, il y a des titres d'abord, des titres de romans, par exemple, il y a le Dahlia Noir d'Ellroy, ou il y a L'Art de la Joie de Goliarda Sapienza, ça passe comme ça. Enfin, moi, j'en ai repéré d'autres.
Ouais. Ah, j'ai oublié de la nommer d'ailleurs. Ouais.
Oui, parce que ça, ouais. Je suis sûr. Que, ouais. Et puis il y a cette phrase, par exemple, de Farah quand elle voit ce jeune migrant dont on vient de parler, Angosom, elle dit on ne m'enlèvera pas de l'idée que cette beauté est le commencement du terrible et la fin de l'innocence, qui est une référence, un emprunt à Rilke, je pense, car le beau n'est que le commencement du terrible. Mmh. Alors j'aimerais bien qu'on en parle, parce que ça c'est passionnant, puis c'est vraiment constitutif de votre travail, ce tissage comme ça de vos lectures de l'œuvre des autres à l'intérieur même de votre texte.
Oui, Alors bon, ça représente 1% du texte global, hein. Je suis pas une plagiaire. Et puis je remercie les gens à la fin, sauf quand j'en oublie. Eryl, que je l'avais oublié, je l'ai rajouté, je crois, dans des tirages ultérieurs. Je crois qu'un des avantages finalement de vieillir et d'écrire de plus en plus de livres, c'est une forme de désinhibition. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours écrit avec dans mon univers mental, avec les textes des autres, mais je n'osais pas les citer parce que, pour plein de raisons, mais entre autres parce que j'avais peur finalement qu'on me trouve pédante. J'avais lu une phrase de Duras au sujet des écrivains à citation et ça m'a terrorisée pendant 15 ans. Du coup, je n'osais pas. Maintenant, finalement, je me permets un peu tout. Et du coup, j'exhibe presque cette façon dont j'hybride ma propre phrase avec les phrases des autres. Mais alors, il y a des citations littérales, mais parfois il y a juste des allusions. Parfois, je garde juste le moule syntaxique de la phrase, mais les mots sont autres. Mais j'écris quand même avec la crainte qu'on pense que je veux faire la virtuose avec du Proust, du Racine, du Rimbaud, du Verlaine. Non, j'écris avec eux parce que je pense avec eux et même je parle avec eux. Et maintenant, finalement, si à ce moment-là, je sens bien que j'ai envie de mobiliser d'autres auteurs, je le fais. Mais toujours dans quelque chose qui relève du métissage, de l'hybridation, du tissage.
C'est ça. Et puis alors, vous nourrissez aussi, on en a un tout petit peu parlé, vos textes d'observations extrêmement fines, extrêmement précises, par exemple du parler populaire, on y a fait une allusion. Je vais lire un tout petit passage, page 214, parce qu'en plus, alors c'est drôle, je trouve ça très drôle, surtout que ça vient d'un coup dans un texte qui n'est pas écrit du tout comme ça, donc il y a un effet comme ça assez, assez brutal, et puis c'est très très juste. Alors par exemple là, ce passage, page 214, c'est Farah qui parle avec son amie Maureen, dont vous avez parlé tout à l'heure, et donc c'est Maureen qui commence, qui dit « Moi, ce que je te dis, c'est pour t'aider, tu ressembles plus à un mec qu'à une meuf. Ouais, mais moi, je préfère les meufs. » Ben, raison de plus pour être un gars, tu pourrais pécho des meufs. Je peux pas les pécho, je veux être elle. Voilà, par exemple.
Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, la plupart des jeunes qui m'entourent parlent comme ça. Hein. Et ça, c'est rien par rapport à ce qui peut s'échanger sous mes yeux, enfin, à mes oreilles, et que je ne comprends plus. J'ai parfois besoin de décryptage. Mais cela dit, ça peut donner des choses très justes. Il y a 2 ans, je marchais derrière un élève pas un élève à moi, mais visiblement un élève de mon lycée. Il ne savait pas que j'étais derrière lui. Il discutait avec son copain. Et en fait, on leur avait demandé de lire Belle Amie, de Maupassant. Et il y en avait un qui l'avait lu et l'autre pas. Donc, celui qui avait lu voulait résumer Belle Amie à l'intention de son camarade. Il le fait, ma foi, plutôt bien. Et il conclut en disant, et à la fin, il a pécho la meilleure go. Et c'est ça, Belle Amie. À la fin, il épouse celle qui, finalement, va le propulser socialement. Donc, il a pécho la meilleure go. Je me demande si je ne l'ai pas mis dans le roman.
Oui, vous l'avez mis.
Tellement
oui.
J'ai trouvé que la formule était très juste. Mais attention, pas d'angélisme non plus. C'est-à-dire que ce langage, il vous faudrait 48 heures hein, pour l'apprendre. Alors que, malheureusement, un français plus correct et plus soutenu, les enfants, les adolescents auxquels j'ai affaire, moi, il leur faudrait beaucoup plus de temps que ça pour le maîtriser. Donc, dans les dialogues, j'aime bien ces ruptures de ton aussi. C'est vrai que moi, je peux avoir parfois des références érudites, académiques, un niveau de langue soutenu, et puis faire arriver dans les dialogues des choses triviales, effectivement, jouer sur comme ça des ruptures de ton et des ruptures de registre.
Oui, et ça c'est ce qui donne un très grand plaisir de lecture, hein, vraiment, parce que par moments ça s'entrechoque carrément. Donc je sais pas comment vous l'organisez, comment vous le construisez. Il y a vraiment à certains moments des effets d'entrechoquement qui sont très très forts aussi bien sur le plan littéraire que sur le plan de la réaction du lecteur.
Alors, mais je pense que c'est comme ça que ça se sédimente en nous. Il y a un sociologue qui a fait paraître il y a peut-être déjà 10 ans un livre qui s'appelle La culture des individus, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Bernard Lahire, où il montre que comment finalement aujourd'hui, bon, il y a toujours une culture dominante et une culture dominée, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui à la fois aiment Michael Jackson et vont à l'opéra, lisent Joyce, mais vont aussi faire un karaoké. Et moi, je suis le produit de ça, c'est-à-dire que finalement j'écris avec ma culture et ma culture elle est très impure, elle est à la fois comme je suis agrégée de lettres, j'ai 52 ans, évidemment que je peux citer Joyce, mais j'aime aussi Rihanna, j'aime aussi Julio Iglesias et tout ça finalement je le laisse maintenant arriver dans mes textes. Alors après, évidemment hein, je maîtrise, il y a des choses que je garde, d'autres pas, mais je ne me prive pas de cette impureté, de ces décalages, et je pense même aujourd'hui avec le recul que c'est mon écriture et que c'est la singularité de mon écriture, même si par ailleurs je répète c'est ce métissage des cultures, vous devez le constater vous aussi dans vos vies et chez vos proches.
Oui, Lahire dans son livre citait aussi Sartre qui paraît-il était un très grand lecteur de séries noires.
C'est ça.
Oui.
Mmh.
Oui, c'est un livre qui est paru aux éditions La Découverte, qui est passionnant. Alors, pour terminer, on va terminer pas sans tout dévoiler, mais enfin, sur la fin du livre, c'est vrai qu'il y a un moment très difficile pour Arcadie, parce que je ne raconte pas pourquoi, mais bon, ça va être très, très mis en cause, ça va être démoli dans la presse, etc., pour un certain nombre de raisons. Mais quand même, ça se termine sur comme une espèce d'élargissement encore de l'utopie.
Quand j'avais à peu près écrit les trois quarts d'Arcadie, Paul Otchakowski-Laurence, mon éditeur, est mort. Et donc, ça a considérablement assombri la fin du récit. C'est-à-dire que je lui avais dit, vous allez voir, ça sera mon livre le plus comique. On en rit ensemble, d'ailleurs. Il se réjouissait de le lire. Et puis, le livre n'a pas pu être aussi comique que je le souhaitais jusqu'au bout, parce qu'il y avait ce décès, cette perte, qui a, donc, je répète, coloré de tragique hein, la fin du livre. Et pourtant, je ne voulais pas qu'on puisse réduire ce roman à l'histoire d'une utopie qui se fracasse contre la réalité. Parce que finalement, de façon peut-être un peu naïve, je continue à croire en l'utopie. Et donc, même si vous verrez, si vous lisez le livre, bien sûr qu'il y a des choses qui vont se fracasser. Mais il y a quand même des forces de vie qui résistent et Farah elle-même, elle sera dépositaire de cette idée que l'amour peut tout vaincre, même si ça paraît un peu mièvre quand on l'énonce comme ça. Et donc, d'une utopie qui meurt, naît une autre utopie. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu un final très insurrectionnel, mais pas entièrement sombre, alors que mes livres souvent se terminent de façon très sombre. Et celui-là, finalement, il a été assombri alors que je ne le souhaitais pas, mais j'ai quand même réussi à lui donner quelque chose de plus positif.
Oui, parce que là, cette fois-ci, on prend les migrants, on les prend avec soi, quoi. Ils sont pas exclus.
Oui, pour le dire vite,
c'est, oui. Ouais. Oui, c'est... Et c'est très agréable, ça donne de l'air dans cette période où on ne cesse de nous rabâcher qu'il y a le pragmatisme et le pragmatisme. Et ça, j'avoue que cette fin du livre-là m'a beaucoup réjoui aussi.
Tant mieux.
Compte tenu de l'ère contemporain, ouais. Voilà.
Oui, ouais, ouais. Je ne sais pas comment réagir à ça, mais oui.
Alors, il nous reste quelques minutes, donc si vous souhaitez poser des questions à Emmanuel ou bien faire des remarques, c'est le moment. Je pense qu'on a un micro disponible. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se lancer le premier ou la première ?
Que vous ayez lu le livre ou pas, d'ailleurs ?
Oui, bien sûr. Madame. Merci beaucoup. On vous passe le micro. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai l'impression que le micro n'est pas ouvert. Attendez, on vous l'ouvre. Voilà. Non. Si, il paraît que si.
Oui.
Bonjour, madame.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Moi, je vous croyais beaucoup plus âgée d'abord, avec la somme de connaissances que vous avez. Je suis étonnée de voir une femme, somme toute jeune. Et puis, j'aurais voulu savoir comment vous arrivez à concilier votre côté déjanté et le fait d'appartenir à une institution qui est parfois un peu sclérosée.
Elle est aussi provocatrice que vous, en fait.
Oui, oui, oui.
C'est pour ça que
Oui, mais d'une façon générale, hein, non seulement je suis fonctionnaire et j'appartiens à une institution effectivement sclérosée, mais je mène une vie très bourgeoise et très rangée. Donc peut-être que les livres finalement sont ma part d'ombre et ma part de fantaisie comme une espèce de soupape. Bon, cela dit, il se passe des choses très bien aussi dans l'éducation nationale. Enfin, on n'est pas que des reproducteurs d'inégalités ou des gens qui exercent une violence symbolique sur nos élèves. Mais vous avez parfaitement raison. Oui, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite le micro poser une question ? Monsieur.
Est-ce que Bonjour. Vous pensez pouvoir partager une partie de ce livre avec vos élèves notamment ? Vous parlez des parcs qui cohabitent à l'intérieur de nous. Mmh. Est-ce que vos élèves connaissent votre métier et votre production ? Et est-ce qu'un livre comme celui que nous venons d'entendre décrire est accessible à vos élèves ? Est-ce que vous en lisez des pages ? Est-ce que vous en liriez des pages ? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec ces jeunes que vous côtoyez ouais. beaucoup ?
Alors, c'est très compliqué compte tenu du fait que mes livres ont souvent... Il y a des scènes très scabreuses, très érotiques, très subversives, très dérangeantes. Moi, j'ai des élèves... Bon, cette année, c'est particulier. J'ai des terminales et des BTS. Donc, ils ont 17, 18, 19, 20 ans. Mais faire lire certaines scènes à des garçons ou des filles de 15, 16 ans, je ne le ferai pas. Et de toute façon, je ne le ferai pas déjà parce que ça relèverait d'une espèce d'autopromotion que moi, j'aurais jugé insupportable en tant qu'élève. Donc, c'est difficile pour moi. Tant qu'ils sont mes élèves, j'aime autant qu'on n'en parle pas. Après, une fois qu'ils ont eu leur bac ou qu'ils sont partis enfin, dans une autre classe, ça peut redevenir un sujet de conversation. Par ailleurs, je pense que mes élèves me lisent, mais ne m'en parlent pas. Ils me parlent juste de... Ils ne me parlent pas du contenu des livres, ils vont me parler de mon activité d'écrivain. Ils vont me demander comment j'écris, où est-ce que j'écris, si ça me rapporte de l'argent, si je veux passer à la télé. Mais le contenu des livres, non. Alors, soit parce que les ayant lus, ils sont gênés, soit parce que ne les ayant pas lus, ils sont gênés aussi, parce que finalement, c'est pas très sympa pour moi. Mais de fait, on n'en parle quasi jamais. Ils savent que je suis écrivain, ils sont assez flattés même. Et puis, ça leur fait du bien, je pense, de voir des écrivains vivants. On peut aborder le sujet de temps en temps, mais on le fera toujours par le biais de l'activité sociale, enfin le métier d'écrivain. Mais le contenu des livres, on n'en parle strictement jamais. Et j'ai dû avoir un élève qui est venu un jour en librairie dans une rencontre que je faisais dans le Val-de-Marne. Les autres ne viennent pas.
Quelqu'un d'autre, une autre question ? Oui, madame, on va vous passer les micros. Voilà, madame, puis ensuite, je ne vous oublie pas, je vous ai vu. Voilà. Bonjour, madame.
Merci, bonjour. Je me pose des questions sur la personnalité de Fiorentina. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette communauté ?
Ouais. Alors, je vous rappelle qu'elle existe. Hein. Donc, oui, mais elle ne saura jamais, je pense, qu'elle est dans un livre, un roman français. Alors, ce que j'imagine pour elle, c'est qu'en fait, on l'a trouvée avec la maison. C'est-à-dire qu'elle a été sans doute élève dans ce pensionnat tenu par les sœurs du Sacré-Cœur. Et elle est restée. Et quand Arcadie et Victor sont venus, ils l'ont achetée avec les murs. Mais c'est complètement invraisemblable. Hein. Et elle est restée aussi parce que finalement, elle ne pourrait plus vivre ailleurs. Là, elle aussi, elle jouit d'une très grande liberté. Bon, à part la restriction alimentaire concernant la viande, c'est vrai qu'on la laisse tranquille. Et donc, elle ne pourrait plus vivre ailleurs que dans la communauté. Mais elle est très extérieure. Mais en fait, elle ne comprend pas ce qui s'y passe. Elle ne comprend pas du tout. Voilà, donc elle est là pour faire la cuisine et gérer l'intendance, mais l'amour libre, ça lui passe là.
Je crois qu'il y avait madame. Oui, c'est ça, voilà, juste là. Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
je n'ai pas lu votre livre, je ne vous connaissais absolument pas, je vous découvre, et je suis assez frappée par le rapport de tout ce que vous nous avez dit avec une notion qui pour moi est très importante et très dérangeante actuellement, c'est la notion de la frontière ou des frontières. Mmh. Et justement, peut-être que vos élèves, par exemple, qui n'arrivent pas à vous parler de ce que vous écrivez ou venir vous rencontrer au cœur de ce que vous exprimez, et c'est peut-être justement leur incapacité à franchir ces frontières. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
Alors, clairement, hein, depuis... on aurait eu cette discussion il y a 5 ans, je vous aurais tenu un discours très optimiste concernant mes élèves, les cours que je leur dispense, l'enseignement du français, etc. Depuis 4-5 ans, je dirais qu'il y a quelque chose qui a vrillé et qui s'est vraiment dégradé. Alors, pas du tout dans le rapport humain, au contraire, ça s'est plutôt pacifié. Mais en revanche, ils ne parlent pas mon langage, je ne parle pas le leur, et on se comprend de plus en plus mal. Et donc, c'est peut-être une des raisons qui explique le fait qu'il y ait cette inhibition à discuter littérature avec moi ou à discuter de mes livres. Mais je pense que cette dégradation récente que je constate, je pense qu'elle est due aux nouvelles technologies. Hein. Je pense qu'elle est due au portable qu'ils ont en cours sur le genou, sous la table, et qui fait qu'ils ne sont plus avec moi. Ils sont ailleurs. Et donc, du coup, c'est tranquille. Hein. Il n'y a plus de bavardage ou d'agitation. Ils sont, de toute façon, neutralisés par leur téléphone portable. Que je vois ou que je ne vois pas, que je leur dis de ranger ou qu'ils rangent ou pas. Mais enfin, de fait, et je pense que ça a complètement, d'une part... restreint leur capacité linguistique ou leur capacité rédactionnelle, et puis ça fait qu'ils ne sont jamais vraiment là. Ils sont comme des élèves fantômes. Alors, c'est confortable, hein, mais c'est en même temps très affligeant.
Et très inquiétant.
Oui, mais je répète, hein, jusqu'à il y a 4-5 ans, je vous aurais tenu un discours aux antipodes du discours décliniste sur les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient, etc. Mais là, je constate quelque chose qui a fondamentalement changé et qui est fondamentalement délétère. D'où mon envie de vivre en zone blanche.
Est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une question ? Oui, mesdames, pardon, on vous apporte un micro tout de suite. Bonjour, madame.
Oui, bonjour. Justement, je voudrais que vous nous parliez du personnage de Daniel. Parce que Daniel est celui qui est branché avec un portable, qui a l'air quand même très à même des technologies actuelles et qui a une relation quand même très particulière. Est très forte, surtout dans la deuxième partie du livre, avec le personnage de Farah.
Alors Daniel, c'est un personnage récurrent hein, de mes romans. Il est présent dès le premier que j'ai publié chez POL. Il s'appelait déjà Daniel et c'était déjà un garçon un peu ambigu. Enfin, en tout cas, il aimait les garçons et il s'habillait en fille. Il est central dans La Princesse 2, que j'ai publié il y a quelques années. Et là, effectivement, alors il est temps. Il fait partie des enfants de la communauté, donc il grandit en zone blanche et en même temps, il a très envie d'avoir un smartphone et il va s'en procurer un. Donc il va être une sorte d'interface entre les autres enfants qui, eux, respectent l'interdiction du smartphone et puis et le monde extérieur. Et donc lui, il se connecte de temps en temps. Il fait en sorte que les enfants de la communauté ne soient pas complètement déphasés par rapport aux musiques, aux séries et à Instagram, à Snapchat. Effectivement. Donc il joue un peu ce rôle d'intermédiaire entre le monde extérieur et les enfants de la communauté.
Vous étiez plusieurs à lever le doigt, peut-être non, c'était pour faire masse. Et pour que... Je ne frustre personne, il n'y a plus de questions ou... Non ? Si, monsieur, qui revient en deuxième semaine.
Oui, je ne vais pas trop insister, mais je voudrais vous faire insister, c'est une question de prof à prof, sur la question du portable et des réseaux sociaux en particulier. Que pensez-vous qu'on peut faire de tout ça ? J'ai posé des questions à mes élèves il y a très peu de temps, et ils se dégageaient qu'ils passaient entre 4 heures et 8 heures par jour sur leur portable.
par jour et par nuit.
Par 24 heures.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire de ça, notamment dans l'enseignement, mais dans la littérature, dans l'usage de la langue, dans la possibilité d'une langue commune? Vous avez déjà pas mal parlé de ça, mais je pense que c'est un très grand sujet. Je ne veux pas l'appeler problème tout de suite, parce que ça pose ça comme un problème, mais je pense que c'est un véritable sujet pour aujourd'hui.
Alors, je ne peux pas vous donner de réponse politique, hein, bien sûr, à cette question. Moi, j'y réponds par les moyens qui sont les miens, à savoir la fiction. Je pense que la fiction peut s'emparer de ces sujets-là, même s'ils sont a priori pas très littéraires, pas très poétiques, pas très romanesques non plus. En tout cas, moi, j'ai essayé de le faire dans ce livre-ci. Ce qui ne résoudra certainement pas les choses, c'est l'interdiction du portable à l'école. Ça ne marchera pas. Parce que de toute façon, ils l'auront d'une façon ou d'une autre. Enfin bon, ça générera de la tension et du conflit, mais en même temps, ils s'arrangeront quand même pour se connecter et se connecter en cours. Je répète, hein, j'ai vraiment écrit ce livre avec des inquiétudes très fortes concernant en particulier les jeunes gens.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Vous allez pouvoir rallumer vos portables dans quelques instants. Le temps simplement de remercier beaucoup Emmanuel Bayamakdam de cette rencontre. Et donc surtout, lisez ce livre. C'est un vrai bonheur de lecture. Arcadie chez POL. Bon après-midi.